Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio très chaud en cet hiver de Radio Foot International sur la radio mondiale. Et nous commencerons aujourd'hui par, évidemment, la Ligue des Champions. Et par l'aventure de Brest qui continue. Le stade brestois s'est assuré hier une place au prochain tour grâce à sa victoire sur le PSV Eindhoven. Ils sont fous, ces Bretons, et on adore ça. Victorieux aussi, et enfin le PSG qui à Salzbourg a repris des couleurs et quitté le groupe des éliminés. Ce résultat est-il rassurant pour la suite européenne ? Le Bayern Munich, vainqueur, est de retour parmi les meilleurs. Le Real Madrid a lui retrouvé ses atouts en forme et a battu l'Atalanta sur la pelouse de Bergame. Peut-être le réveil du géant madrilène. Et puis nous évoquerons des Coupes du Monde. Coupes du Monde à tout prix. La FIFA a donc approuvé cet après-midi les noms des pays organisateurs des deux prochains mondiaux. En 2030, à cheval sur trois continents, peu importe le bilan carbone. Et en 2034, en Arabie Saoudite, peu importe les droits humains et les températures brûlantes dans ce désert. Que vous inspirent ces candidatures ? Je suis sûre que ça vous inspire. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Ça m'inspire d'une belle mascarade, mais bon, on a l'habitude avec la FIFA.
On aura de quoi parler, donc c'est chaud déjà. Ouais. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie. Bon,
il fait chaud dans le studio, mais heureusement non.
Pardon. Oui, parce qu'il fait froid dehors.
Non, il fait tout va. On est prêt pour le show, voilà.
Ah, bah, parfait. Oui. Nabil a toujours.
Fallait rebondir parce que j'étais en difficulté.
Bonjour Patrick Juillard. Il a essayé de venir au secours de son copain, mais bon.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Patrick. Tout va bien ?
Tout va bien. Écoutez, je rentre d'un charmant pays que je ne connaissais pas, le Bénin, et
le
je
pays
salue
qui
d'ailleurs.
Fut des écureuils.
C'est cela, et qui
sont
est maintenant celui des guépards.
Guépards, pardon. Oui.
Apparemment, oui, puisqu'ils sont qualifiés pour la CAN et que l'équipe va de mieux en mieux.
Ceux qui courent le plus vite dans la nature.
Est-ce que ce sera le cas l'année prochaine au Maroc ? Nous verrons bien, mais. C'est prometteur, c'est prometteur.
Et puis notre ami de la section espagnole de RFI, Manu Taladios. Buenas tardes, Manu.
Buenas tardes, bonjour à tout le monde.
Et bienvenido dans cette émission avec qui nous parlerons notamment du réveil ou non de ce géant madrilène qui est le Real Madrid, bien sûr. Salut Diouf m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
C'est une main visiblement et un coup franc, pourquoi pas sur coup de pied arrêté. Doumbia pour le frapper. Repris, première fois. Allez, embrasse-toi.
Ouais, c'est incroyable. Heureux pour tout le monde avec un cœur brestois.
On va continuer comme ça, puis si on doit gagner le prochain match et le dernier match, on va le faire.
On a retrouvé un stade brestois qu'on aime dans l'engagement, dans l'intensité. Une soirée exceptionnelle. On marque l'histoire du club.
C'est toute l'Europe.
Ah, c'est fini.
Qui a les yeux écarquillés devant cette épopée, devant ce conte de fées. C'est un tour de magie époustouflant.
Un petit poussé devenu grand, il faut en appeler au meilleur conte d'enfants pour raconter cette belle histoire que nous offre le stade de Brest et sa bande de pirates. Bien mal nommé puisqu'ils ne volent rien, mais au contraire tressent à chaque match une légende qui se racontera dans les chaumières d'Armorique un soir, bien sûr. Cette équipe, au si petit budget, au si grand nombre d'absents sur blessures ou bien punis, est assurée de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions après avoir disputé 6 rencontres et remporté 4 victoires. Un total de 13 points et une cinquième place sur 36 équipes européennes. Hier soir encore, sur la pelouse du Roudourou, les Brestois ont battu le PSV Eindhoven 1-0. Et cela suffit à la joie de le supporter.
J'y croyais, c'était sûr que Brest allait gagner.
On n'est pas chauvin, mais on y croit. Brest, c'est formidable ce qu'ils font en Ligue des Champions. C'est formidable ce qu'ils ont fait en Liga. On voit une équipe passionnée, on voit des joueurs passionnés, naturels. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui manque à certaines grandes équipes au foot aujourd'hui. Et c'est formidable.
Encore une belle surprise aujourd'hui. On s'y attendait pas forcément, mais il y a toujours des belles surprises dans le foot. Ils ont su mettre l'occasion au moment où il fallait. On se contente du 1-0, on va dire. C'est parfait, c'est super, on est tous contents, on va tous bien dormir ce soir.
Je trouve ça exceptionnel.
Vous ne vous souvenez pas ?
Quelque part, on arrive à l'aboutissement de quelque chose qu'on a rêvé. Le Stade Brestois est exceptionnel, avec une équipe exceptionnelle. Quelque part, c'est que du bonheur.
Du bonheur pour tout le monde et pour l'entraîneur, bien sûr, si charismatique, Éric Roy.
En faisant un très gros match, on a réussi à battre cette équipe. Donc, c'est pas effectivement un petit exploit pour le club que nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté ce soir. Quand je vois l'engagement de mes joueurs, leur volonté d'aller au bout d'eux-mêmes. Quelquefois un peu trop parce qu'on a encore perdu des joueurs sur blessure. Mais bon, voilà, c'est effectivement une très belle soirée pour une soirée certainement qui marquera l'histoire du club.
Éric Roy, donc, si heureux de marquer l'histoire du club. Alors, c'est sûr, il marque l'histoire du club, mais il marque aussi l'histoire du foot français, Nabil, tout simplement.
C'est votre auditeur, enfin,
les supporters
en Brestois, il a tout parfaitement résumé, c'est exceptionnel. D'autant qu'on recontextualise et on revient un peu sur le fil de l'histoire et de savoir comment il a été nommé. Au moment où il est nommé, personne ne parie sur lui. C'est-à-dire qu'en fait, il est nommé, il vient tout seul, sans staff. En règle générale, vous venez, vous demandez des conditions de travail, vous emmenez des gens de confiance avec vous. Et lui, il est arrivé comme ça lors d'une discussion à Nice avec Lorenzi dans les tribunes. Et il s'est retrouvé bombardé entraîneur de Brest, alors que ça faisait 10 ans ou 12 ans qu'il n'avait pas été entraîneur.
Oui.
Une dizaine d'années qu'il n'avait pas été sur un banc. Il a fait tous les métiers du foot, évidemment, directeur sportif, consultant également. Ouais. Donc il est... Et puis là, ce qu'il réalise, c'est exceptionnel. Moi, je suivais Brest parce qu'il y avait Slimani et Belaïli, deux joueurs algériens. Et, c'était le Brest de Dekar Sarkarian, donc juste avant l'arrivée d'Éric Roy. Il y a certains joueurs là, que je vois là, je les avais vus sous Der Zakarian en fin de cycle. C'est-à-dire que c'était une équipe qui pouvait se retrouver à 10 contre 11, c'est-à-dire en supériorité numérique, et ne pas avoir la possession contre la JOCR, par exemple. Quoi. En fait, on ne se rend pas du tout compte de la métamorphose. C'est complètement irréel. Si à ce moment-là, moi, on me dit que Magnetti, Chardonnay, ils vont se retrouver en Ligue des Champions 2 ans plus tard à regarder dans les yeux des joueurs du Bayer Leverkusen, honnêtement, je change de métier, j'y crois pas une seule seconde.
Bon, ben, changez pas de métier. Bruno Constant, cette victoire des Pirates hier soir, elle n'était pas encore prévisible, on va dire. On sait qu'avec eux, tout est imprévisible. Ouais. Mais on se disait, bon, le PSV Eindhoven a tenu en échec, pas loin d'ici, au Parc des Princes, le grand ou ex-grand PSG.
Oui, puis c'est le leader du championnat des Pays-Bas,
exactement.
Mais très très largement.
Qui l'année dernière a vaincu ce championnat,
ouais,
qui
restait
était vraiment champion,
combien de
lui.
Victoires d'affilée. Mm-hmm. Enfin, c'est une vraie équipe de Coupe d'Europe, habituée à la Coupe
Brosse,
d'Europe. Donc c'est pas un petit exploit en fait, c'est un grand exploit. Ouais. Et voilà, et moi je trouve que ce que réalise Brest, alors il y a la réussite, hein, parce que c'est vrai que la réussite des petits...
Non, on la provoque, ça, on dit.
On dit qu'on
ça
la
tombe
provoque.
Pas du ciel. Mmh.
Effectivement. Après, moi,
c'est
je pense que ça accompagne aussi le parcours de Brest depuis qu'il est dans cette Coupe d'Europe. Mais c'est extraordinaire. Et moi, je trouve que c'est un joli pied de nez à cette édition des Champions, qui est un nouveau format avec plus d'équipes, donc plus de matchs, donc plus d'argent, qui devait aller pour les plus gros. Parce que c'était ça, en fait. Hein. C'était pour que les plus gros aient plus de matchs et continuent à se qualifier parce qu'ils auraient pu asseoir leur domination.
Et quand on regarde les 8...
Et en fait, c'est pas du tout ça. Il y a plein de surprises dans les 8 premiers, dont Brest, qui est la plus grande. Mm-hmm. Même si moi, j'ai vécu ça déjà avec Leicester. Parce que souvenez-vous, Leicester.
Oui. Brest, on l'a vécu avec vous.
Éric Roy, quand il revient, effectivement, Brest, c'est pas loin d'être relégable. Ils sont très menacés par la relégation. Et ils remontent et ensuite ils font la saison qu'ils ont fait. Leicester, ça démarre par une série de matchs où ils se sauvent en 2015. Ils sont tout près de la relégation. Ils font 7 ou 8 victoires sur le 8 derniers matchs, quelque chose comme ça. Et ensuite, la saison d'après, ils sont champions, à la surprise générale. Et en plus de ça, ils continuent la saison d'après en Ligue des Champions. Parce qu'ils tombent avec un peu de réussite comme Brest, dans une poule où il y avait Porto comme plus gros morceau. C'est pas le plus gros morceau des équipes à tirer. Ils sont premiers de leur groupe. Ils vont en 8e de finale. Ils éliminent le FC Séville alors qu'ils auraient pu tomber là aussi sur City, le PSG, le Real, le Bayern. Et ils vont jusqu'en quart de finale où ils résistent à l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Donc, c'est des équipes qui, et Leicester, comme Brest, à l'époque, on se dit, mais ces joueurs-là, avant, ils étaient quasiment un pied en championship.
Alors, on
en
disait désormais sur régime et tout ça, mais en tout cas, ils font ils écrivent une histoire absolument incroyable.
C'est extraordinaire.
La seule défaite, finalement, de cette équipe dans les 6 matchs, il y a 5 victoires et un match nul, c'était en Espagne, c'était contre le FC Barcelone. Bon, ça a été un peu sévère, hein, 3-0, si je...
Ouais, ça aurait pu être que 2, parce qu'ils en ont pris un tout à la fin, là, qui était évitable.
Mm-hmm. Mais Manu, est-ce qu'on s'étonne aussi des belles histoires de ce football européen, on va dire, du côté de l'Espagne?
Oui, bien sûr, bien sûr. On parle d'une équipe que personne n'attendait. Même moi, quand on m'a demandé en Espagne qu'est-ce qu'on peut attendre de Brest, moi, je les mettais plutôt, et je dois m'excuser, parmi les candidats à finir avec 0 points, mais pas d'une façon négative. C'était une équipe qui, voilà, était là pour profiter.
Après, bon, alors, ils ont 13 points.
Oui, voilà, hein, non.
Vous avez mangé votre chapeau.
Mais après, voilà, ils se sont fait battre par les meilleurs Barcelone de la saison jusqu'à maintenant, probablement. Il faut mettre un peu les choses en contexte aussi, les calendriers qu'ils sont mis, Sturm Graz, Sparta et Salzbourg, ça
aide
un peu.
Oui, mais ils ont eu le Bayer Leverkusen.
Oui, ils ont fait match nul. Mais ce que je voulais dire, c'est... Mais après, on voit la
ils
totalité.
Ils auront le Real Madrid bientôt.
Ouais,
hein.
On voit la totalité. Cette saison en Ligue 1, ils vont plutôt bien. C'est 10e, 11e. Dernière saison, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc, il y a un travail bien fait depuis un moment pour qu'ils arrivent où ils sont. Et puis, même si on parle de calendrier, même si, tout ce qui aime bien les théories conspiratoires, je ne crois pas que Brest a le pouvoir de manipuler les calendriers avec l'UEFA. Donc, c'est ça qu'on leur a donné. Ils ont gagné les matchs. Il y a d'autres qui ne sont pas capables, comme on a dit, de battre PSV. Donc, chapeau. Et on en parle naturellement en Espagne, d'une équipe qui a bien fait les choses.
Ils ont surtout marqué les points quand ils devaient les marquer. Et ça, c'est important parce qu'il y a d'autres équipes, justement, face à des adversaires où on se dit c'est là qu'il faut marquer des points, bah, qui n'y sont pas arrivés. Simplement, Patrick, comment vous comprenez la différence entre la Ligue des Champions et cette aventure absolument incroyable où tous sont au-dessus de leur niveau, pratiquement. On va parler notamment de deux joueurs de ce groupe. Et puis, les résultats en championnat qui sont... Alors, effectivement, on se disait la deuxième saison sera difficile, elle l'est, mais ce parallèle est compliqué, non ?
Oui, mais
à comprendre.
Brest n'a ni les moyens ni l'effectif pour jouer à fond sur les deux tableaux.
Ils ont beaucoup
et Brest
blessés.
A priorisé la Coupe d'Europe, d'abord parce que l'aventure, c'est la continuité de la saison dernière, c'est le fait de jouer la Ligue des Champions. Donc, je pense que chez les joueurs, même inconsciemment, il y a un peu plus de motivation pour ces grands matchs, parce que ces joueurs-là, contrairement à ceux d'autres clubs, contrairement aux Lillois, contrairement aux Parisiens, contrairement aux Monégasques, ces joueurs-là découvrent la Coupe d'Europe. Je ne parle même pas de la Ligue des Champions, je parle de la Coupe d'Europe tout court. À quelques exceptions près, aucun ne l'avait joué. Donc je pense qu'il la déguste avec d'autant plus de gourmandise. Et puis, l'effectif ne permet pas de jouer sur les deux tableaux. Vous ne pouvez pas... à moins de voir le groupe exploser complètement, jouer à fond sur les deux tableaux. Mmh. Donc Brest fait un peu l'inverse de ce que fait l'OGC Nice. L'OGC Nice qui est globalement...
Au hasard,
voilà,
un exemple.
Je balance mes petits scuds, mais qui est globalement insuffisant et assez pitoyable en Coupe d'Europe et qui, au contraire, en championnat est à peu près au niveau qu'on attend. Brest, c'est un petit peu le contraire.
Ils ne jouent pas tout à fait la même Coupe d'Europe quand même.
Non, certes,
ça,
mais...
Ça aurait pu inverser aussi les choses.
C'est d'autant plus impardonnable, j'allais dire, pour l'OGC Nice.
Bêtement. Voilà. En tout cas, c'est Brest 3, ils se permettent même de rêver grand, parce que hier, grâce à Étienne Moati, on apprenait hier soir qu'ils ont demandé à jouer leur prochain match, que ce soit de barrage, et ils sont assurés au moins d'en faire un, ou alors le huitième de finale, au Stade de France, où il y aura 80 000 personnes, et peut-être que cette belle épopée pourrait remplir le stade.
Oui, elle pourrait remplir le stade. Ne serait-ce qu'avec les Bretons de Paris, je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour remplir le stade.
Et remplir les crêperies de
Pour faire une belle recette, c'est sûr que 80 000, c'est mieux que les stades.
C'est pour donner de
l'ampleur
en
Bretagne.
Mais moi,
je pense que ce qui fait la force de. On en parlait avec Nabil avant l'émission. Ce qui fait la force de Brest, c'est aussi l'ancrage local. C'est le soutien.
Ah oui, mais ils jouent à Guingamp, ils ne jouent pas à Brest.
Oui, mais c'est, Guingamp, ça reste la Bretagne. Bah,
quand vous voyez qu'ils sont déplacés jusqu'à jusqu'en Autriche ou à Barcelone.
Même le fait de jouer dans un petit stade, moi, je pense que ça les renforce
aide,
malgré
oui,
tout.
Oui, voilà, il y a une communion.
C'est pas la même chose hein, si tu joues au Stade de France.
Il y a un effet
stade,
chaudron un petit peu que vous n'aurez pas dans un stade très évasé comme le Stade de France.
Après, ils peuvent se dire aussi que c'est peut-être aussi l'occasion de faire une grande fête parce que ça va dépendre si. Il tombe dans les 8 premiers ou dans les 24.
Oui, voilà, s'il joue le Real Madrid, s'il joue un top clubs
ben voilà.
et qui se disent de toute façon ouais. malheureusement on va sortir
sur deux matchs,
peut-être
c'est plus
que c'est mieux de jouer au stade, mais moi à mon sens jouer en rester en Bretagne donne de la force à cette équipe.
Je crois qu'on serait un peu tous un peu breton quand même. Même si je suis espagnol, pour les matchs serait un peu breton ça dépend du rival évidemment, mais
les bretons d'Espagne c'est
les bretons
les
d'Espagne
Galiciens,
il y aura, les bretons de Paris et probablement les bretons des Bordeaux qui habitent à Paris si on a l'opportunité
les
d'aller voir
les Celtes en Espagne c'est les Galiciens
ouais. Si on a la chance d'aller voir Brest à Paris, je crois qu'il y aura une très belle ambiance au stade.
Ça risque. Nabil, la belle histoire dans ce match, c'est aussi, alors encore une, hein, parce que finalement, c'est comme un dépliant. Plus on avance et plus on découvre des choses. C'est celle de Julien Le Cardinal, hier, le buteur.
Oui, c'est un garçon qui évoluait dans la division inférieure. Il y a encore quelques saisons, mais c'est ça aussi, c'est le talent de l'entraîneur.
Qui livrait des pizzas et qui touchait le SMIC.
Oui, voilà, qui est passé par une vie semi-professionnelle avant de devenir...
comme on voit certaines équipes de Coupe de France, mais là...
C'est
incroyable.
Bon, c'est vrai qu'il y a une... les gens peuvent se reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a une... c'est un peu à échelle humaine. On ne parle pas de dizaines de millions d'euros
de
prolongation de salaire et de prolongation de contrat. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'a fait aussi Lens. On parle beaucoup de Brest.
Exact.
Un garçon comme Sotoka, même Jonathan Clauss, par exemple, qui joue aujourd'hui à Nice, aussi. Qui s'est retrouvé en Ligue des Champions.
Quand ils avaient réussi à battre Arsenal.
Il était perdu à Avranches, ou à Énergie Côte-Buisson.
Le Cardinal, c'est d'autant plus incroyable qu'il joue latéral droit pour dépanner sur ce match, en l'absence
en
de
plus.
Lala. Il s'en sort très bien dans le jeu. Pourtant, il y a des clients au PSV. Et il marque un but un peu... Parce qu'il se trouve là au bon endroit, mais il faut être là quand même, c'est l'art du foot.
Et le maître.
Le but est assez symptomatique de Brest, moi je trouve.
Ils ont de la réussite.
La tête de Baldé, elle est ratée, elle est en fait de l'épaule, elle rebondit sur la cuisse d'un défenseur, et c'est un latéral droit.
C'est un billard à quatre bandes.
Ouais, c'est exceptionnel, mais il faut être là pour la mettre.
C'est ça.
Le plus important.
On a tout, ce qui est bien, c'est un peu une lecture de l'histoire de France. On a un roi. On a le cardinal. Il a vu la fumée blanche au second poteau, il a marqué.
Et c'est les mousquetaires.
Voilà. Il y a l'homme du match hier soir, alors un peu contre ses frères, c'est le gardien néerlandais Marco Bizot, surnommé hier soir, évidemment, Bizot, le Hollandais volant. C'était une allusion trop, évidemment.
Le Hollandais violent, par contre, c'est De Jong, mais c'est pas le même poste.
Enfin, il y a Boularouz aussi.
Figurez-vous qu'il les a arrêtés. Il a fait 5 parades hier, et notamment celle contre Luc De Jong, qui à la fin a échangé son maillot avec lui. Donc c'est assez sportif. En tout cas, Manu, un bon gardien, évidemment, dans un match. On sait aussi, et on a des contre-exemples, que c'est très important.
Oui, et surtout. Et que parfois, c'est compliqué de mesurer les bons gardiens quand ils jouent pour des équipes qui ne sont pas énormes. Parce que déjà, si on voit les statistiques, en Ligue, ils sont en négative. Donc, tu dis, est-ce qu'il y a un bon gardien? Mais évidemment, c'est un gardien qui doit faire face à plein d'occasions des équipes rivaux.
Et, à Barcelone, il ne s'était pas beaucoup illustré, justement, Bizot.
Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus tenir. Quand tu as une équipe comme Barcelone qui jouait très bien, qui t'attaque, il faut un gardien, il faut la défense, il faut les milieux terrains qui... Donc, c'est pour ça, simplement pour dire que oui, un très bon gardien, je ne dirais pas la plus grande surprise de la saison, mais qui a fait un très bon match. Et voilà que parfois, on ne met pas en valeur, le travail de ces gardiens, des équipes un peu plus petites, parce qu'on voit qu'ils prennent des buts, mais que quand même, c'est normal.
Donc, Brest sur son nuage. Alors, évidemment, on est en Bretagne, un nuage de pluie, c'est évident.
Ça dépend.
Qualifié pour le prochain tour, que ce soit un 8e ou donc un 16e, puisque ces barrages feront office de 16e de finale. Autre équipe française qui jouait hier soir, et le PSG dans tout ça.
Hakimi qui remonte tout le terrain. Kangin Lee talonne pour Hakimi. Hakimi jusqu'au bout. Hakimi en retrait, but de Désiré Doué. Oh, ce but est remarquable. Le plaisir d'avancer, de dribbler et le désir de marquer. 3-0 pour le Paris Saint-Germain.
Enfin, une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Depuis 4 matchs, ils étaient en panne, les Parisiens, surtout leurs attaquants, qui hier ont quand même inscrit 2 des 3 buts de cette rencontre. Une partition plutôt facile à exécuter, n'est-ce pas, dans la ville de Mozart, car le RB Salzbourg n'a pas proposé grand-chose, plutôt sur la défensive. Et les Parisiens ont surtout sauvé leur survie dans la compétition. Ils ont glissé du groupe des éliminés, ils étaient 25e. Ils sont devenus 24e et là, on a accès au barrage. Bradley Barcola estime que c'est un grand pas.
On savait que si on voulait continuer dans la compétition, il fallait gagner ce match. On l'a fait de la meilleure des manières, je pense. On a fait une bonne entame de match, ce qui nous a permis de faire un bon match. Je pense que ça va faire un déclic. On avait du mal devant le but depuis un certain match. Et là, marquer 3 buts aujourd'hui à l'extérieur, c'est très bien et j'espère que ça continue. On se posait beaucoup de questions. Et là, aujourd'hui, on a vu quand on joue sans se poser de questions, en étant à fond, et bah, ça nous permet de gagner des matchs comme ça.
Alors Bruno, l'attaquant, notons-le, hein, Bradley Barcola, a été élu homme du match.
Oui, alors bon, ça...
Sans,
oui,
même, sans même avoir marqué... Ouais,
C'est un peu le problème de ceux qui élisent les joueurs du match, je ne sais pas trop. Quoi.
Ils sont à la buvette au lieu d'être devant, ouais, devant le spectacle, je pense.
Est-ce que pour vous, cette victoire est encourageante ou rassurante pour le Paris Saint-Germain?
Ni l'une ni l'autre. C'est un train qui arrive à l'heure parce que Salzbourg, on l'a vu, hein, c'est très très faible. C'est peut-être même l'équipe la plus faible de cette édition de Ligue des Champions. On les a vus paniquer quand ils avaient le ballon entre les pieds. C'est quand même assez étonnant. Même quand ils se projetaient vers l'avant, ils n'arrivaient même pas. On a l'impression que c'était des gamins qui n'arrivaient même pas à frapper au but. Gamins, quoi. Le ballon n'arrive même pas jusqu'au but de Donnarumma.
Ils sont jeunes.
Ouais, c'est une équipe U23 hier, entre U19 et U23.
Après, c'est un club qui est comme ça, qui a des cycles logique, hein, de formation. Mais il fallait gagner, il fallait s'imposer. Moi, je pense qu'ils auraient même dû s'imposer beaucoup plus largement pour soigner la différence de but. Qui pourrait être précieuse. Mais il y a eu des bonnes choses, notamment en fin de match, tout début du match aussi. Moi, j'aime bien leur pressing. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'appuie pas assez parce que c'est compliqué d'organiser un très bon pressing. Mais j'ai encore vu des prises de décision chez les joueurs qui étaient assez étonnantes, dont Barcola, qui a beaucoup insisté, beaucoup fait des dribbles, un peu s'entêter dans des dribbles face à 2-3 joueurs. Il doit apprendre aussi à faire évoluer son jeu. Moi, j'aime bien Gonzalo Ramos parce qu'il apporte vraiment quelque chose à cette équipe. Mais quand Guinly, on en parlait avant l'émission, je ne sais pas ce qu'il fait au
PSG.
C'est
très neutre, quoi.
Je trouve que ce n'est pas le niveau du PSG.
Mais il est dans les petits papiers de l'entraîneur.
Oui, et même des milieux de terrain comme Vitinha et Neves, je trouve qu'ils s'entêtent, ils ralentissent le jeu, une touche, deux touches, trois touches avant de la donner. Donc ça ne m'a pas plus rassuré que ça. C'était une victoire qu'il fallait assurer. Mais le plus dur commence avec évidemment le City. Et puis la victoire impérative, ce sera à Stuttgart la dernière journée.
Est-ce que c'était rassurant, Nabil, de voir quand même les attaquants inscrire des buts? Parce que le dernier attaquant du Paris Saint-Germain qui avait marqué en Ligue des Champions, je pense que vous vous souvenez de son nom.
Un certain Kylian.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est effarant. Autant les deux premiers tiers du terrain, ils le maîtrisent. La récupération, ils la maîtrisent. Mais c'est quand même une anomalie statistique sans nom, ce Paris Saint-Germain. Quand je vois hier que c'est leur troisième but au bout de 100 tirs, je me dis, mais attends, mais c'est quand même des joueurs, des internationaux. C'est des joueurs
qui ont moins la chance que Brest.
Ah oui, non, mais c'est des joueurs qui sont quand même recrutés à des sommes quand même faramineuses, à des dizaines de millions d'euros.
Des gros salaires.
Mais c'est irréel. Alors, à un moment, quand Ramos y rate la première situation, je me dis, bon, là, ça ne peut pas être la faute de Luis Enrique. À un moment, c'est aussi la faute. C'est les joueurs déconnent, excusez-moi l'expression. Quand tu es à un mètre du but comme ça, tu as juste à mettre plus de détermination, à mettre le pied. Bon. C'est l'impression, j'ai l'impression que le doute a assailli tout le monde est contaminé, tout le monde se refile la patate chaude, tout le monde a peur de marquer presque. Et là, bon, c'est sûr qu'avec Ramos, qui est un numéro 9 de métier, bah, t'as plus de chances de marquer des buts qu'avec Kang In-Li en faux 9, ouais, là, ça, c'est sûr.
Sauf qu'il l'a sorti, Gonzalo Ramos. Alors bon, le résultat était acquis, puisqu'on était déjà à 2-0.
Voilà.
Mais c'est son remplaçant et doué à marquer aussi. Alors ça donne raison à l'entraîneur.
Ça donne raison à l'entraîneur, mais oui et non, parce qu'on sait qu'il s'est beaucoup entêté avec des faux 9. Et là, il en a mis un vrai. Et comme par hasard, c'est lorsqu'il y a un vrai neuf qui est titulaire et à défaut d'être beaucoup servi, qui au moins monopolise les défenseurs, qui sert de point d'appui,
qui reprend le rythme,
qui peut faire
aussi,
des déviations et qui montre un bel opportunisme. Alors, parce qu'on parle de son occasion ratée où il est à 3 mètres et il frappe pas assez fort et le gardien la sort, mais il y a une reprise réflexe de la tête sur une frappe d'Hakimi en début de match où là, il faut être un vrai avant-centre pour la faire et la cadrer, ce qu'il a fait. Et il y a son but où un joueur qui n'a pas les réflexes d'un neuf ne fait pas ce petit pas de plus pour aller mettre son pied et éviter la sortie et marquer. Donc, on voit l'art d'un vrai numéro 9, même si pour moi, il est encore en retour de blessure. Donc, il va encore être meilleur dans les semaines à venir. Mais voilà, il avait fait deux matchs. En championnat, sans réussir à trouver la faille, il l'a trouvé.
On dit de Luis Enrique qu'il ne veut pas faire jouer de neuf. Pour moi, c'est faux. Hein, parce qu'au Barça, il avait un neuf, il y avait Suarez, il y en avait en équipe d'Espagne, il y en avait Gerard Moreno, etc. Et Gonzalo Ramos, il l'a pas. Il le fait première journée, il le fait jouer. Il le fait débuter titulaire.
C'est vrai.
Et après, il se blesse.
Non,
je pense
voir.
Qu'il ne s'était pas blessé. Gonzalo Ramos aurait été le neuf du PSG, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est autour, moi, que ça m'inquiète.
Et après, c'est on a vu un but en transition, quand même, il faut le noter.
Oui. Ouais.
Donc ça, c'est encore une autre corde à leur arc qui n'avait pas trop montré jusqu'alors. Donc c'est quand même plutôt encourageant dans le contenu, plus que dans le résultat. Parce que le résultat, il est normal, entre guillemets, comme dit Bruno, c'est un train qui arrive à l'heure.
Alors, ce train qui arrive à l'heure, malgré tout, Manu Taladios, ils sont donc 24e, c'est-à-dire ils sont encore en position difficile, relégable, on va dire.
Ce soir, ça pourrait changer.
Oui, en plus. Est-ce que vous pensez malgré tout que ce PSG qu'on a vu donc hier soir est quand même en progrès au moins sur le plan de l'attaque et de l'efficacité, vous pensez qu'ils seront au moins barragistes ?
Je crois qu'ils seront barragistes. Enfin, barragistes, après,
ils ne peuvent plus être dans le groupe des 8, je pense.
La possibilité dès qu'ils ne se qualifient pas, elle est aussi sur la table. Ce sont deux matchs encore très compliqués. Je n'y crois pas que ça va arriver. Mais
il y a
quand
Manchester
même,
City.
Manchester
hein,
City ici à Paris.
Le prochain.
Puis
il y a
Leroy Stuttgart, qui c'est quand même... C'est pas une équipe facile, c'est pas énorme, mais quand même, ils ont joué à l'extérieur dernière journée.
Mais c'est l'équipe qui joue,
c'est la dernière journée, il faut voir comment les PSG arrivent, l'état d'esprit et tout. Après, pour parler de l'efficacité, je crois que c'était Luis Enrique, si je me souviens pas mal, après les matchs contre Nantes, qu'il disait, nous, on a un taux d'efficacité de 1, quelque chose pour cent. Normalement, c'est 10, c'est 1, quelque chose. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui ne semble pas du tout réel. Mais sa façon de jouer avec l'équipe d'Espagne, il n'aimait pas trop les numéros 9. On avait Morata, il n'était pas un grand fan de lui, même s'il lui faisait jouer. Mais bon, je suis content pour Gonçalo Ramos, parce que malgré le fait que lui, il a dit 1000 fois, moi, j'ai vu que tous les joueurs soient dangereux. C'est vrai qu'il attaque plutôt avec 7 joueurs, non, sauf les deux défenseurs centrales. Et l'arrière-gauche, normalement, parfois Hakimi qui ferme cette ligne de 3. Et je crois que les équipes ont besoin de quelqu'un qui est spécialiste qui est capable de marquer. Parfois, c'est un neuf. Parfois, c'est quelqu'un qui n'est pas un neuf, comme Messi ou comme Cristiano. Mais vous, la marque de but...
Entre Messi et Kanguili, ce n'est pas le même niveau. Quoi.
Non, mais c'est ça que je vais dire. Il faut quelqu'un qui marque.
Avec tout respect pour Kanguili, qui est un joueur professionnel de haut niveau.
Après Luis Enrique,
Fabregas ou Messi,
Luis Enrique, c'est quelqu'un d'idée fixe, de la même façon que Rodri, Ballon d'Or, meilleur joueur milieu de terrain avec nous en Espagne, la dernière Coupe du Monde, il jouait comme défenseur central. Il aime bien Caningli, il aime bien
Asensio
comme faux numéro 9.
Idée fixe, c'est plutôt Brest que PSG, mais bon, plutôt gaulois. Allez, on continue. Il y a donc le suspense et cette deuxième soirée qui promet encore plein de résultats.
Lucas Vazquez, Brahim Diaz, de tous les coups, pour l'instant, Kylian
contrôle.
Mbappé, l'enchaînement XXL de Kylian Mbappé, le talent est de retour, chapeau Kylian, c'est terminé, Mbappé a marqué, puis s'est blessé, Vinicius et un énorme Bellingham ont aussi scoré, peut-être un virage dans la saison des Madrilènes.
Olise qui continue cette bonne deuxième mi-temps pour lui. Olise peut-être avec le 5-1. Quel but de Michael Olise. Voilà, messieurs l'arbitre qui met fin à cette fin match et à large victoire du Bayern Munich 5-1.
Commençons par ces ogres bavarois qui ont été expéditifs et on va l'être un peu aussi parce qu'hier soir, face au Shakhtar Donetsk, ils se sont donc imposés plutôt facilement. Alors, un match qui était en plus en territoire allemand, hein, puisque ce
à Gelsenkirchen.
Cette pauvre équipe de Donetsk joue hors les murs. Ouais. Oui, elle joue parfois à Hambourg et là, c'est à Gelsenkirchen.
Ouais, malheureusement.
Thomas Müller, même l'infatigable, a contribué au résultat. Voilà le Bayern Munich en 8e position. Donc, à cette heure, eh bien, même qualifié d'office pour les 8e. Est-ce que c'est un juste retour des choses et des ogres parmi les meilleurs d'Europe ? On ne va pas dire les grands d'Europe, parce que dans ces 8, effectivement, il n'y a pas que des grands. Parce que s'il y a Liverpool, l'Inter Milan, le FC Barcelone ou encore le Bayern, il y a aussi Dortmund, qui est un demi-grand. Brest, alors n'en parlons pas. Aston Villa et Leverkusen. Donc, c'est certaines surprises ou un renouvellement, je sais pas.
Pour moi, il est un peu tôt pour parler d'un retour de l'ogre bavarois, parce que Vous l'avez souligné, le Bayern jouait le Shakhtar, qui est une équipe quand même très amoindrie,
ouais,
à la fois dans l'effectif et dans les conditions.
Prochain rival de Brest.
Et voilà, et dans les conditions de jeu qui ne sont pas faciles, qui est contrainte de s'expatrier. Et puis, malgré le score, malgré la large victoire, le Bayern a quand même laissé pas mal de large. Il y a eu pas mal de largesses défensives. Il y a eu notamment un but encaissé sur une balle perdue au milieu avec une défense totalement absente.
Ouais.
Un gardien devancé. Donc
leur
je trouve
travers,
que
parfois.
Le Bayern me, sur ce que j'ai vu, et y compris le match contre le PSG lors de la précédente journée, je ne trouve pas ce Bayern très souverain, en fait. On a déjà vu des Bayern plus rouleaux compresseurs, plus impressionnants. Donc je pense que c'est une équipe qui a encore de la marge et qui sera, à mon avis, plus redoutable au mois de mars quand les choses sérieuses commenceront vraiment.
Elle a effectué une remontée, on va dire, Manu, dans ce classement, parce qu'elle a 12 points, hein, et le meilleur en a 18, c'est toujours Liverpool, à 7 heures. Le Bayern Munich, malgré tout, ils ont une idée dans la tête aussi. C'est cette finale à Munich. Finale, la Ligue des Champions.
Oui, ça, c'est une motivation en plus.
Il l'avait dit compagnie la dernière fois, après le match contre le Paris Saint-Germain. Non,
et vous, comme ils ont commencé la saison aussi bien, je crois que la motivation, elle est là. Pour moi, le Bayern, je ne le mets pas encore au même niveau que les grands favoris. Pour moi, une espèce de côté machine, dans le sens de que quand tout marche bien, il ne s'arrête pas. Donc, il s'en fiche si c'est le troisième, quatrième but, cinquième but. Mais s'il y a un avis qui n'est pas bien placé ou quelque chose, je crois qu'ils ont des problèmes à développer son jeu quand ils ne sont pas dans cette position de domination. Là, vous face à Barcelone, par exemple. Mmh. Donc, faudra voir un peu pour pouvoir... Après, quand tu vois l'effectif, les joueurs, il n'y a pas de doute que c'est une équipe...
C'est finalement pratiquement une nouvelle équipe, je dirais. Peut-être avec certains anciens joueurs, évidemment, mais avec un nouveau coach qui fait qu'on a presque un nouveau Bayern et qui a une mission. En plus, il le sait déjà, c'est au moins de gagner le championnat cette saison.
Et puis,
Bruno.
Moi, je trouve qu'ils ont pris un très gros risque avec Vincent Kompany, qui est un jeune entraîneur, peu d'expérience. On l'a vu à Burnley, il y a beaucoup de naïveté dans son équipe en première ligue. On est un peu dans la même tradition que Nagelsmann avant lui sur le banc. C'est très avant-gardiste, c'est très déséquilibré. Moi, je les trouve effectivement très forts contre les faibles, mais dès que ça s'élève un petit peu, Dortmund, ils font match nul en Bundesliga. Ils sont éliminés en Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen. Ils perdent à Villa. Ils explosent complètement à Barcelone. Moi, ça me fait penser au Bayern de Guardiola qui prenait des grosses caisses parfois en Ligue des Champions parce qu'ils sont totalement déséquilibrés.
Et Guardiola n'était pas naïf et débutant.
Non, en plus. Mais Vincent Kompany n'a pas l'expérience qu'avait Guardiola, qui avait déjà gagné avec des champions. Donc, je ne sais pas trop comment juger ce Bayern-là. C'est un peu comme un train qui arrive à l'heure. Effectivement, les gros, petit à petit, se redressent.
Mais il y a des trous. Même contre le Shakhtar, il y a des trous d'air, il y a des erreurs, il y a des approximations.
C'est leur jeu qui est un peu assumé.
C'est lié aussi à la qualité de leurs défenseurs, un peu comme en équipe d'Allemagne, même si ce n'est pas des Allemands. Mais quand je les ai vus contre le Barça... Upamecano et Kim, c'était pas possible. Non, je veux dire, ils ont fait un mauvais match. Ouais. C'est une équipe qui est déséquilibrée. Je trouve qu'elle a des très forts talents devant, exceptionnels. Quand l'attaquant dans l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, c'est du niveau de Lewandowski. Moussiala, vous avez raison, c'est probablement un joueur qui est parti pour être parmi les meilleurs joueurs du monde pendant 10 ans. Coman, qui est une valeur sûre.
Goretzka au milieu, qui a un taulier incroyable cette année.
En revanche, derrière, bon, après, il y a toujours eu ce problème de déséquilibre. Je trouve que ça manque... En fait, c'est capable de dinguerie. C'est-à-dire que c'est très fort, mais ça peut te faire une dinguerie. Upamecano, malheureusement, une de ses signatures, c'est de temps en temps faire une dinguerie.
On l'a vu le week-end dernier en championnat avec une passe en retrait insensée et Kim qui aussi. A coûté un but.
Bon, après, globalement, ça reste quand même un gros client.
Et ils sont là, on va dire.
De toute façon, à partir du mois de mars, s'ils arrivent un peu à resserrer la vis sur 2-3 trucs,
ça devrait aller.
Ils seront dans le top 8 européen, quoi. Pas pour moi.
Alors, l'autre super match hier sur une autre chaîne, et ça aurait été bien de pouvoir suivre, mais il y avait tellement de matchs. Hein, quand vous en avez 9 en même temps, c'est compliqué.
Faut voir
c'est
le multiplex.
Moi, j'ai suivi, moi.
Oui, mais le multiplex, on y va quand il y a un but. Ouais. Alors, les Merengues, ils jouaient donc gros. Hein, arracher la victoire à Bergame, c'était obligatoire. C'était face à l'Atalanta, qui n'a pas été une simple affaire. L'Atalanta est en tête de la Liga. Et si je ne me trompe pas, c'était 14... De la Serie A, pardon.
9 victoires d'affilée.
Et je crois que c'était 14 matchs sans perdre, il me semble.
Mais 9 victoires d'affilée, c'est rare.
Hein. Bah oui. Ouais. Et en plus, il y avait quand même ce diable d'Ademola Lookman, on va en parler. En tout cas, le Real Madrid a fini par s'imposer 3-2. Et on va l'entendre, Carlo Ancelotti, parce que peut-être une des choses les plus intéressantes et importantes hier soir, c'est que ces forces vives, ces trois buteurs, se sont montrés.
Nous avons été bons offensivement et je pense que le point clé a été la mobilité des joueurs devant. Bellingham, Vinicius, Mbappé. Ils ont beaucoup pesé devant dès l'entame de match et nous étions assez solides en défense. Malheureusement, nous avons eu des blessures pendant le match et je pense que la performance a été à la hauteur de notre côté.
Il a l'air, en tout cas, il fait montre d'être rassuré face aux médias, Carlo Ancelotti, Manu. Mais est-ce que peut-être qu'il y a eu un déclic hier quand on voit donc les trois, c'est évidemment Mbappé, Vinicius et Bellingham qui marquent des buts, des beaux buts dans le déroulé du match. On se dit, est-ce que le Real, qui était dans un trou d'air, on parlait de trou d'air tout à l'heure, peut-être revient.
Ce que je peux te dire, et ça c'était lequel, chez le Real Madrid maintenant, il y a une sensation de soulagement énorme avec cette victoire et un peu la tendance des derniers matchs parce que ça te permet de partir
championnat.
Pour Noël tranquille, sans, voilà. Parce que normalement les classements...
Hein, c'est avant la pause, effectivement.
Soulagement pour voir Mbappé, même s'il a dû sortir blessé au bout des 30 minutes. Normalement, il passe des tests demain. L'après-midi, à Cesaire, on verra. Mais Ancelotti, il avait dit qu'il craint rien, c'était une gêne musculaire. Mais bon.
Une gêne plutôt qu'une blessure,
voilà. Et de voir qu'il a marqué, qu'il a été très pressant les premières, surtout. Je crois que c'était 10 minutes, 3 occasions pour marquer, bien exécuté, même s'il a marqué qu'un seul but, mais quand même, c'est pas mal. Bellingham, qui retrouve un peu son meilleur niveau. Et Vinicius, qui même si hier c'était pas son match parce qu'il avait été blessé, il est capable de marquer. Il est de retour. Donc voilà, il y a des soulagements, un gros soulagement à cause des différentes choses. Les résultats et la façon de jouer d'Mbappé, les faits que les grands joueurs de l'équipe sont présents. Après, c'est une équipe quand même avec des faiblesses. La défense hier, ça aurait pu finir match nul facilement. Mais c'est une équipe qui est. On va dire, retrouve un peu cette équipe compétitive de la dernière saison, mais qu'il est encore loin. Hein. La défense avec Tchouaméni, c'est pas facile. Ceballos, Brahim, il y a pas mal de blessés.
Nabil, c'est ça aussi. Hein. Il y a peut-être un progrès devant et tout, mais le Real, malgré tout, est blessé par ses blessés.
C'est un peu le Arsenal d'une autre époque. Là. C'est le FC Infirmerie. Quoi. C'est vrai que c'est incroyable. Et même quand je me suis dit, mais il y a une malédiction, c'est pas possible. Et Mbappé qui fait un bon début de match et qui est pris malheureusement
par... Il s'assoit sur la pelouse pour dire stop.
Je trouve que ça fait beaucoup. Alors, il faudrait voir au niveau du staff médical du Real, de la préparation. Il y a certainement des explications. On peut toujours invoquer le calendrier, mais je vois pas autant...
Il doit avoir une quinzaine des blessures musculaires depuis le début de la saison.
Je vois pas autant de blessures dans d'autres clubs.
Si, Manchester City.
D'autres gros clubs.
À Brest. Nice, oui.
À Brest.
City, le Real, qui sont les deux derniers vainqueurs de Ligue des Champions, ils sont frappés par les blessures comme jamais.
C'est vrai que c'est une hécatombe. Ouais. Après, ce qui est important hier, c'était quand même un traquenard, parce que le résultat, il est important. L'Atalanta...
Mais oui, ils les attendaient.
Il faut arriver avec des bouteilles d'oxygène. Parce que ça court. Hein. Donc, ils ont fait comme une grosse perf. Enfin, je ne suis pas sûr que d'autres équipes dans la même situation, dans le même contexte, avec le même nombre de blessés, auraient réussi à gagner à Bergame.
Bruno, on a l'impression quand même que ce Real Madrid, quand il faut vraiment hausser le niveau, alors par exemple, on les avait vus à Lille être débordés et finalement battus par le LOSC, mais là, ils savaient ce qui les attendait à Bergame et on a la sensation quand même qu'ils ont été vainqueurs, mais en plus à la hauteur quand même du défi.
Ouais, moi je pense que les grands clubs, City un peu pareil, ils ont démarré un peu timidement parce qu'il y a 8 matchs, donc on se dit, bon, si on en rate un, on en rate deux, c'est pas grave, on peut se reprendre.
Oui, on prend ses repères.
Ils se sentent tellement forts qu'ils peuvent tout renverser sur quelques matchs. Mais là, effectivement, on a retrouvé des cadres très influents. Moi, j'ai adoré le début de match d'Mbappé. C'était le vrai Mbappé. Son but, il est fantastique du début à la fin.
Il se blesse.
Le contrôle qu'il fait sur la passe longue de 80 mètres, il est magnifique, l'enchaînement aussi. Bellingham, il est en train de monter en puissance depuis un mois, il est monstrueux. Il est, je crois, 6 buts sur les 7 derniers matchs.
Il ne faut pas qu'il se blesse, lui.
Il prend des responsabilités dans le jeu.
On a vu comme il s'est touché la jambe à un moment donné.
Mais c'est quand même le retour un peu des patrons offensifs. Parce que là, dans ce match-là, on a vu les qualités du Real. On a aussi vu ses défauts. Parce que le match, pour moi, il doit finir à 3-3. L'occasion, la dernière occasion
Retegui,
de l'Atalanta.
Retegui, là, à 90e plus 4.
C'est plus dur de la mettre au-dessus que de la mettre dedans. Ouais,
c'est incroyable. Mais si c'est, quand c'est Mbappé qui rate, on dit oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. Quand ce sont les autres, on dit allez, Real Madrid a la chance.
Il a 2 mètres de la ligne, il arrive à la mettre au-dessus.
Je veux bien dire que Retegui est un joueur surcoté. Et qu'il y aurait meilleur que lui pour l'Atalanta.
Pourtant, il a réussi son intégration.
Il a la nationalisation parce qu'il n'avait pas d'attaquant.
Il vient d'Amérique du Sud où on l'a appelé un peu à la rescousse dans l'équipe italienne.
Ça montre le niveau des attaquants qu'il y avait l'Italie à l'époque.
Bien sûr,
je pense qu'on est loin des grands attaquants italiens comme Toni ou Vieri.
Quelques mots.
Mais l'Atalanta, quelle équipe l'Atalanta
de Lookman, notamment hier. Son but.
Déjà, c'est lui qui est passeur sur l'occasion manquée de Retegui. Au bout des arrêts de jeu, il aurait pu finir avec un but et une passe décisive. Et puis le but qui marque,
il est
extraordinaire
buts,
parce qu'il est en angle fermé. Il se joue de son vis-à-vis. On s'attend à une frappe enroulée côté ouvert et il frappe à ras de terre très fort en fermant le pied et ça trompe Courtois qui est pourtant pas le dernier.
Il était un peu.
Mais ce but, c'est Mbappé avait réussi à en mettre des lors de sa meilleure époque à l'époque 2022. Mais Lookman, là, il a mis encore un but. Il a inventé un but.
On a hâte de savoir si lundi prochain...
Il sera meilleur joueur africain de l'année.
On sait qu'il est en concurrence avec Guirassy, le Guinéen. Hakimi, le Marocain. Le gardien de l'Afrique du Sud.
Ron Williams. C'est l'Ivoirien Simon Adingra.
Voilà, donc,
les votes sont clos, terminés mais depuis hier soir.
Saura lundi.
Exactement. Voilà. On saura lundi et espérons que le verdict soit intéressant. Voilà pour ce qui était de cette première soirée. Alors évidemment, on y reviendra demain et on fera un bilan. Mais pour l'instant, on continue et on va parler, Coupe du Monde.
And now, we can officially confirm that the hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. Mabrouk, félicitations, parabéns, felicidades.
Verdict sans surprise donc à la FIFA cet après-midi où les 211 fédérations ont confirmé un choix de fait, celui des organisateurs des prochaines Coupes du Monde parce qu'ils étaient à chaque fois seuls candidats au nom de la rotation des candidats et d'autres critères un peu moins précis. En tout cas, ça s'est passé lors d'un congrès virtuel, messieurs, c'était chacun chez soi et on fait ça à distance.
Ça, c'est bon pour le bilan carbone.
On prend de l'avance, on va dire.
Voilà. Non, mais voilà, c'est ça.
Donc, en plus, les candidatures uniques, évidemment, dictées par le fait que ces Coupes du Monde sont désormais XXL, puisqu'il y a 48 équipes et donc il faut un nombre d'installations énorme. Donc, pour 2030, on divise pour mieux régner. Trois pays. Alors, ça sera entre trois continents, d'abord le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, à savoir Espagne, Portugal et Maroc, qui quand même restent des pays un peu voisins, entre Agadir et le nord du Portugal ou le nord de l'Espagne, c'est quand même un peu loin. Et puis c'est quand même la Coupe du centenaire, paraît-il. Alors d'ailleurs, il ne le dit pas, vous avez entendu. Donc il y a un anniversaire qu'on ne peut pas éviter, l'Amérique du Sud. Donc Montevideo recevra un match, mais aussi les jaloux du coin, Buenos Aires et Asunción, puisqu'ils avaient fait acte de candidature commun. Il y aura 3 matchs sur 104 qui se dérouleront en Amérique du Sud. Après, tout le monde traversera l'Atlantique. Bref, au diable l'avarice, au diable le dérèglement climatique et le bilan carbone, Patrick Juillard.
Moi, je trouve qu'au départ, je trouvais que le ticket Espagne, Portugal, Maroc, c'est assez cohérent. C'est la même zone.
C'est la Méditerranée, ça peut se défendre.
Mais on fait deux continents d'un seul coup.
Oui,
c'est rusé.
Déjà, et puis surtout, c'est cohérent. C'est-à-dire que ça évite que les pays s'endettent pour construire des nouveaux stades. Chacun a son quota de stades et accueille son quota d'équipe. Tout ça me semble bien. Mais alors, ajouter des matchs en Amérique du Sud, alors le centenaire, mais... Pourquoi pas faire des matchs amicaux de prestige 3 mois avant? Pourquoi intégrer ça à la Coupe du Monde? Pourquoi pas faire un...
Mais pourquoi pas le faire pour le centenaire en Amérique du Sud, carrément.
Faire un événement particulier.
C'est un choix par élimination.
Mais ça donne quand même une image un peu décadente de la Coupe du Monde. On fait fi de tous les critères vertueux et on fait n'importe quoi. Et pour les équipes qui vont devoir se taper les voyages ensuite de l'Amérique du Sud jusqu'en Espagne, pour les supporters, la FIFA s'en fiche complètement.
Non, mais c'est une insulte aux supporters, c'est une insulte au football, la préparation des équipes, c'est une insulte à la Coupe du Monde elle-même, parce que là, c'est une mascarade en fait.
Total.
Le fait qu'il y ait trois continents sur une même Coupe du Monde, c'est pour permettre de faire tourner, de revenir en Arabie Saoudite, aux Émirats, après le Qatar.
On en parlera après.
C'est ça en fait.
Il y a un Espagnol dans la place et il va recevoir la Coupe du Monde.
Je
voulais dire exactement la même chose. Prochaine Coupe du Monde, toi, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale. Et après, tu vas voir l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Donc voilà, ça laisse la place. Ça permet que l'Arabie Saoudite puisse organiser son. Pour moi, c'est pour ça que je disais choix par élimination. Donc comme ça, il y a tout le monde qui a quelque chose, il ne se peut pas demander après pour 2034.
On sert tout le monde.
Ouais. Après, je suis content dès que ça soit en Espagne.
Après, comme vous l'avez dit, quand
ils ont joué les premières.
Ah ouais, 82, c'était magnifique. Un souvenir assez cuisant pour les supporters
français.
Pour moi,
je parle de
souvenirs. Mais le meilleur joueur espagnol, c'était Roberto López Ufarte.
Ça
date. Puis c'était la grande époque brésilienne, les amis.
Mais en vérité, vous l'avez dit en introduction, Annie, la Coupe du Monde aujourd'hui est tellement chère et tellement exigeante en termes d'infrastructures que très peu de pays peuvent se le permettre et que ce sont souvent des pays qui veulent faire de la propagande qui l'organisent parce que c'est le soft power.
Alors, voilà. Comme vous en parlez de cette Coupe du Monde de 2034, il y a un tel suspense qu'on va savoir de la bouche du président de la FIFA qui est le rose élu. Et alors, c'est des
c'est
images.
C'est insoutenable. On ne sait vraiment pas qui ça va être.
Not least, it is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabrouk. Mabrouk to our friends in Riyadh.
Alors, il y avait quand même une enveloppe hein, très grande, et puis il y avait un nom inscrit.
Ah, je pensais qu'il y avait de l'argent dans l'enveloppe. Ah, pardon.
Alors, on n'a pas vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe, mais entièrement, mais on a vu le carton en tout cas. Nabil, le gagnant, l'Arabie Saoudite, avec. Alors, c'est vrai que leur équipe nationale nous a tous marqués au dernier mondial. Qatar, premier match de l'Argentine, ils battent l'Argentine avec un certain Hervé Renard à leur tête, donc c'était marquant sur le plan sportif. Mais l'Arabie Saoudite, ça sera dans le désert, ça sera chez l'ami, désormais nouvel ami de Infantino, qui est le prince MBS, hein, comme on le surnomme, Mohamed Ben Salman. Alors, c'est vrai que, Patrick le dit, il a mis tellement d'argent sur la table que c'était incontournable, mais il n'a que deux des 14 stades qu'il faudra.
Oui, mais bon, ils n'ont pas trop de soucis financiers. Ouais. Bon, ça va être de toute façon le Qatar puissance 10. C'est un pays qui développe aussi un soft power très puissant à travers le sport. Alors, on connaissait le tourisme religieux, notamment parce que c'est là où il y a le pèlerinage.
La Mecque.
Et Jeddah également pour on passe par là pour aller pour le petit pèlerinage. Enfin bref, passons. Ils développent le football avec leur ligue, là où ils ont recruté des stars à prix
d'or.
Oui,
ils achètent des compétitions comme la Super Coupe d'Espagne. Oui.
Mais d'abord, voilà, c'est 3 ans. Ouais, voilà. Et puis et surtout, il y a d'autres sports dont on parle un peu moins ici, mais dont on parle aussi dans le monde. C'est la boxe. C'est incroyable. C'est incroyable.
Ils sont en train de sauver la boxe anglaise.
Le golf aussi.
Ils sont en train de sauver la boxe anglaise qui était en train de.
Ils ont sauvé le rallye Paris-Dakar aussi, n'est-ce
exactement,
pas
la exactement. Formule 1 avec Aramco, l'opérateur pétrolier.
Maintenant,
enfin, c'est
maintenant on va certainement entendre des réserves, notamment sur les droits humains. Mais quand vous avez eu des organisations de la Coupe du Monde au Qatar, en Russie, par exemple. Bah, les Saoudiens, ils vont vous dire.
C'est pas pire, oui.
Pourquoi nous, on pourrait pas organiser la Coupe du Monde. Enfin.
Bruno.
Non, mais c'est la Banque mondiale, en fait. Comme la plupart des grandes fédérations n'ont plus d'argent, elles vont frapper à la porte de l'Arabie Saoudite et ils en ont pour tout le monde. Et c'est effectivement du grand lavage automatique de tout ce qui s'est passé dans le pays à travers le sport. Donc il faut qu'on continue, qu'on maintienne ces voix, de les critiquer, de les pousser dans leur retranchement pour que ça change. Mais voilà,
Manu, c'est cette Coupe du Monde, c'est en plein été. On sait qu'en Arabie Saoudite, il fait chaud de jour comme de nuit.
Pour l'instant.
Que les stades souvent sont vides parce que à cause de la chaleur et qu'on préfère regarder ça chez soi dans l'air conditionné. Est-ce que ça sous-entend qu'il y aura encore une Coupe du Monde en hiver?
Pourquoi pas. Après, ce qu'on a appris aussi de la Coupe du Monde des Qatar, c'est qu'ils ont les moyens pour faire une Coupe du Monde qui se déroule parfaitement. Pas de souci, que les stades sont pleins. Je sais pas de qui seront les supporters qui seront,
mais qui ont la capacité. Hein. Et puis ils sont capables d'accueillir.
Je me souviens, il y a pas mal d'années ici, j'étais invité, c'était une soirée, c'était Qatar, il ne s'était pas encore les organisateurs, donc c'était la candidature. Et les messages qu'ils passaient, c'était « temps de crise économique, nous on a l'argent pour garantir l'organisation ». Et c'était ouvert, tout mettait les micros pour une interview, on te les disait. Donc ce sont des pays qui sont capables, et j'ai dit c'est bien de leur critiquer, mais après il faut proposer une autre chose. Donc si ce sont eux, et que eux, qui mettent l'argent pour les sports, évidemment, les fédérations vont y aller.
Maintenant, de toute façon, pour toutes les grandes compétitions, que ce soit les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de foot, les candidatures se raréfient parce que c'est de plus en plus cher, de plus en plus exigeant en termes d'infrastructures, ça demande de plus en plus d'efforts et de moins en moins d'États sont capables de les faire. Et qui les fait, ce sont souvent les dictatures qui veulent donner une image plus blanc que blanc d'eux-mêmes. C'est triste.
Eh bien, c'est sur cette note que nous terminons aujourd'hui Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents aujourd'hui. On se retrouve demain pour parler de la deuxième soirée de Ligue des Champions. Merci à tous et bon match.